11h30 sur Colavive, le grand plateau aujourd'hui reçoit Céline Pina. Céline, bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie et je le dis d'autant plus que à chaque fois que nous avons eu à vous demander quelque chose, vous avez toujours accepté avec la plus grande des gentillesses. Merci à vous. Alors Céline, pour cadrer un petit peu l'entretien de ce matin, je suis parti d'un article de Causeur face au retour de l'obscurantisme et de la soumission des hommes, refuser l'arbitraire. Et vous partez dans cet article d'un ouvrage, le commentaire d'un ouvrage d'Aurélien Marc, Refuser l'arbitraire, c'est une voie vers l'avenir qu'il propose, une voie qui parle de la noblesse, du courage et de la nécessité de la lutte, une voie qui rappelle que nous avons dans notre culture des ressources qui nous arment contre le retour de l'obscurantisme et de la soumission des hommes. Et vous précisez, ce sera l'objet de ma première question, que quand vous étiez en train de préparer la préface de cet ouvrage, vous avez expliqué à vos enfants que l'on voyait bien dans la jeunesse de ces vies fauchées au cimetière de Colleville-sur-Mer, dans leur nombre, le prix que coûte la lâcheté et le déshonneur. Mais cet été encore, je pouvais encore dire que ces morts n'avaient pas été vaines et qu'elles nous avaient légué une conscience humaniste plus forte que face à l'horreur des camps. Et vous dites... Nouvelle menace. Aujourd'hui, je sais que nous avons échoué. Pourquoi nous avons échoué, Céline ?
J'allais dire par... je sais pas si c'est par lâcheté ou par mollesse. Ce que je sais, c'est que moi, en tout cas, c'est la Shoah qui a fondé mon engagement politique. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce que des hommes pouvaient faire à d'autres hommes, pour moi, il y avait une limite, en fait, ontologique qui avait été franchie. Je pouvais pas me l'expliquer, j'étais très jeune à l'époque, quand je suis tombée sur les images, je devais être en troisième. Mais ce que je savais... c'est que ça, c'était le mal absolu et que ça ne devait pas revenir. Et quand j'ai lu ce qu'on avait écrit sur la Shoah, quand j'ai lu le « Plus jamais ça », moi, je l'ai pas pris comme étant, j'allais dire, une espérance. Pour moi, c'était ce que l'on m'offrait en tant qu'enfant issu de cette guerre, de cette Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il avait mené, ce qu'il y avait réfléchi, ce qui avait pensé la Shoah, qu'il avait... dénoncer, en fait, m'avait fait le cadeau d'un monde purgé de la barbarie. Je dis pas qu'il allait pas avoir encore des guerres, des affrontements, des conflits, sans doute aussi des choses laides et violentes, mais je pensais que ces horreurs-là, en tout cas, elles ne reviendraient pas, et qu'elles ne reviendraient pas parce que on est le monstre ne peut pas ressurgir, mais parce que les hommes étaient aguerris et qu'ils avaient compris que c'était de leur combat contre les monstres qu'on empêchait cette contagion qui pouvait donner à terme la Shoah. Et j'y croyais profondément. Pour moi, si on m'avait légué quelque chose politiquement et humainement, c'était ça. Et là, aujourd'hui, ce que je vois, c'est le retour du pogrom, le retour du crime contre l'humanité et une majorité de personnes qui détournent les yeux, qui ne sont pas là, et un président aujourd'hui qui vient d'annoncer qu'il ne participerait pas à la marche contre l'antisémitisme, alors qu'on a eu plus d'actes antisémites en un mois qu'en deux ans, et que cela continue d'augmenter.
Alors, on va reparler tout à l'heure de la position de M. Macron, mais toujours dans le même article, vous précisez, il reste une question lancinante, pourquoi serais-je prête à me battre, mais aussi pourquoi serais-je prête à ce que mes enfants risquent leur vie ? Pourquoi serais-je prête à ce que mes enfants tuent ? Que penserais-je, que ressentirais-je si aujourd'hui mes enfants portaient l'uniforme de Tsahal et partaient combattre, c'est-à-dire tuer et peut-être mourir, pour empêcher que se reproduise le déchaînement de sadisme auquel s'est livré le Hamas le 7 octobre ? Et vous précisez que, comme beaucoup naturellement, vous détestez devoir vous poser ces questions. Je les fuis, vous dites.
Oui. Oui, je les fuis parce que c'est comme si, quand j'y pensais, le sol se dérobait sous mes pas, et pourtant, elles sont devant nous. Je crois que c'est exactement les questions qu'aucun parent, qu'aucun citoyen n'a envie de se poser. C'est toujours dur de se dire qu'à un moment donné, il va falloir se battre. Mais très souvent, on met en avant, vous savez, cette question, finalement, pourquoi êtes-vous prêt à vous sacrifier? Pourquoi êtes-vous prêt à mourir? Qui est une question qui vous permet la posture de la noblesse. Mais la vérité, c'est que quand il a fallu combattre Hitler, la question, c'était pas pourquoi êtes-vous prêt à mourir? C'était pourquoi êtes-vous prêt à vous battre et pourquoi êtes-vous prêt à tuer pour préserver vos principes et vos idéaux. On a l'impression qu'à partir du moment où on doit tuer pour préserver ses principes et ses idéaux, c'est comme si on les tuait aussi, presque par un retour de balle, dirais-je. Et pourtant, en fait, c'est la véritable question qui est posée à chaque génération qui se retrouve face à la montée de la barbarie et du totalitarisme, parce que en face de nous, ce que nous avons, c'est quelque chose qui est l'équivalent de la barbarie nazie, que ce soit dans la théorie comme dans la pratique, on vient de le voir. En fait, l'État islamique et Daesh, ce ne sont pas des dérives, c'est exactement le modèle de société que porte l'islamisme, quelles que soient ses composantes. Frères musulmans, salafistes, quelle que soit en fait la composante, c'est face à cela que l'on se retrouve. Et face à cela, la question, c'est pas celle du sacrifice, c'est celle de la victoire. C'est qu'est-ce qu'on fait pour ne pas faire disparaître l'idéal civilisationnel que l'on porte. Et pour ça, il faut pas pleurer, il faut pas allumer des bougies, il faut à un moment donné se lever et combattre un combat intellectuel, mais aussi éventuellement, si les choses vont trop loin, ça peut être le combat physique, et pour vaincre, il faut tuer. Dans un combat, j'allais dire dans une guerre, hein. Je ne recommande pas de créer des brigades de vengeance, ça ce serait atroce, ça n'aurait aucun sens, et là pour le coup, on perd ce que l'on a à défendre. Mais en revanche, ce qu'on voit se lever aujourd'hui, c'est le spectre du retour de la guerre, et dans le retour de cet affrontement et de cette guerre, oui, il y a un aspect civilisationnel, oui, il y a un aspect les démocraties contre les régimes totalitaires, la barbarie contre un idéal civilisationnel, l'idée de défendre l'égalité des hommes contre l'idée de déshumanisation, etc., etc.
Alors, Céline, depuis la rue des Rosiers, Otsar HaTorah, Sarah Halimi, Mireille Knoll, Ilan Halimi et d'autres, à chaque fois on dit c'est le dernier, plus jamais ça. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qu'on a manqué les uns et les autres? Alors peut-être plus les autres que nous-mêmes, parce que vous, dans vos chroniques, dans vos écrits, dans vos paroles, nous, modestement dans notre radio, on essaie de se battre. Mais qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu depuis tant d'années?
Je crois que ce qu'il a manqué, c'est le courage et la lucidité. Autrement dit, on s'est enfermé dans une lecture humaniste du monde et on a refusé de voir que cette lecture humaniste n'était pas partagée. On est parti de l'idée que finalement, la tolérance la plus extrême pouvait amener à ce que nous connaissons mieux les uns les autres, les conflits culturels disparaissent, que la haine dans la représentation de l'autre s'abolisse. En fait, c'est pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que mettre en contact des cultures trop différentes ou trop éloignées, au contraire, a pu faire rejaillir des haines ancestrales. L'exemple que je vais... Ça va vous paraître très décalé, mais la dernière fois, j'étais dans un train, je regardais ce qui se passait et je me disais, c'est amusant parce que à l'époque, quand on me disait qu'il y avait trois classes, première, deuxième, troisième classe, je trouvais ça extrêmement violent, c'était faire des distinctions sociales qui me choquaient. Et là, je regardais ce qui se passait dans le train et je me disais, en fait, il y a trop d'écarts intellectuels, culturels en termes de comportement pour que mettre tous ces gens ensemble ne finisse pas par créer des conflits à l'intérieur des wagons et des trains. Et donc, réinstaurer la distinction permettait, en fait, d'apaiser les conflits. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on n'a pas tenu compte des différents niveaux de civilisation, d'éducation des populations, de maîtrise de la raison. Le problème, c'est que nous, nous fondons tout notre idéal sur la raison et la réflexion, là où d'autres parties du monde n'ont pas accès à cette éducation-là et font tout sur le ventre, sur le sentiment. Et manipuler des sentiments, exciter du ressentiment est très facile quand vous avez une population qui a un très bas niveau et qui est donc est naturellement assez angoissée, croit aux choses magiques, etc., etc. Ça, on n'a pas voulu le voir et on a mis en contact des hémisphères qui n'ont pas les mêmes représentations, qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et donc, d'un côté, j'allais dire, la liberté de penser est très choquante pour des gens qui sont dans la soumission à de l'ordre divin pur qui ne doit jamais être questionné. Et je pense que avoir accueilli de façon massive dans nos pays une immigration qui n'était pas en mesure d'être intégrée parce que elle faisait trop bloc pour qu'elle puisse faire autre chose que finalement essayer de conserver ses modes de vie et ses façons d'appréhender le monde et le réel, et que nous en face au lieu de se dire en partie, une partie des gens qui venaient avaient envie aussi de profiter du progrès qu'on amenait et de montrer qu'en fait notre prospérité économique était liée à notre ouverture intellectuelle, ça on n'a pas su le faire. Et donc du coup, on a à la fois mis en cause nos humanités, notre vision humaniste des choses, mais aussi on est en train de s'en rendre compte, on est en train de détruire notre prospérité, parce que cette prospérité, elle est aussi bâtie sur des principes partagés. Aujourd'hui, vous avez toute une population en France, donc une grande partie rejette une culture de la tolérance, une culture humaniste, au profit d'une culture extrêmement violente de la conquête. Et nous, en face, quand on a vu ces manifestations-là, on s'est dit, si on les ignore, elles disparaîtront d'elles-mêmes. Et ce n'était pas le cas. En fait, pour qu'elles disparaissent, il fallait qu'on ait quelque chose à transmettre. Il fallait qu'on soit sûr que ce que l'on portait était meilleur que finalement ce que les autres amenaient chez nous. Et ça, on n'a pas su le faire. Et finalement, on a laissé réémerger des haines ataviques, un petit peu, j'allais dire, une sorte de mémoire collective de l'humanité, mais dans ce cas-là, de plus sombre.
Alors, les présidents de chambre ont appelé cet après-midi à une manifestation à Paris, et manifestation qui se tiendront également dans les villes en France. Mais cette manifestation, donc à Paris, s'accompagne d'une guéguerre dérisoire où chacun dit « moi je veux bien, mais il ne faut pas qu'il y ait l'autre, moi je veux bien, mais que… » Je dis, est-ce que, en fin de compte, les partis politiques ont bien compris l'urgence et l'importance de cette manifestation ?
Non, rien que… En fait, dans la question, votre réponse est bien sûr que non, et c'est dramatique parce qu'il y a des moments où il faut être au rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, il faut être au rendez-vous de l'histoire. Ce qui se joue, c'est même au-delà de l'histoire, c'est être au rendez-vous de l'humanité. Et force est de constater que les partis ne sont pas à la hauteur, et ça dit quelque chose des hommes qui nous représentent. Et c'est extrêmement triste parce que, rappelez-vous, le poème d'Aragon, Aragon qui était quand même pas, j'allais dire, l'homme le plus tolérant du monde, il écrit un poème pendant la guerre, « Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas ». Et en fait, derrière ce poème, il y a deux personnages, et ces deux personnages étaient un communiste d'un côté, et quelqu'un qui pouvait sembler être son ennemi naturel, qui était un royaliste, un nationaliste, etc. Et pourtant, lui, il dit, dans le combat commun, à un moment donné, oui, c'est peut-être un mode de survie, les différences s'effacent et ne reste que l'essentiel. Et dans cet essentiel, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, j'allais dire, tombe côte à côte parce qu'ils ont combattu côte à côte. Et c'était ça qu'il fallait retrouver en disant, à un moment donné, l'enjeu est tel que ces petites questions-là, elles doivent être dépassées. On n'a pas été capable de le faire, mais pourquoi ? parce que certains cherchaient de bonnes excuses pour se dérober. Pourquoi ? Parce que, électoralement, vous avez environ 500 ou 600 000 juifs en France. Aujourd'hui, les naissances d'origine arabo-musulmane représentent 20% des naissances. Et selon les évaluations, on est entre 10 et 18, 19% de musulmans en France. Vous voyez, déjà, la quantité est telle que malheureusement, pour nos hommes politiques, le calcul est vite fait. Qu'est-ce qui est le plus rentable électoralement ? D'abandonner les Juifs de France ou de vexer une partie des musulmans de France qui sont sous influence des islamistes et qui répandent le discours du Hamas en France ? Eh bien, malheureusement, le calcul qui a été fait est un calcul mathématique et n'est pas un calcul moral ou politique, parce que si vous refusez de défendre la minorité de la population française face au totalitarisme, vous ne défendrez pas non plus sa majorité. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est quand on dit le juif, c'est le canari au fond de la mine, c'est-à-dire c'est celui qui annonce le coup de grisou, mais le coup de grisou, quand il arrive, il ne tue pas que le canari, il tue tout le monde. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre et ce qu'une partie de notre classe politique est en train de nier. Et je crois que les Français s'en rendent plus compte, ceci dit.
Alors justement, les Français, les sondages de cette semaine montraient que les vieux stéréotypes qui associent les Juifs au pouvoir et à l'argent résistent toujours. On avait vu dans les manifestations, je me rappelle dans les manifestations des Gilets jaunes, on a l'impression, vu que le Covid est passé après, on a l'impression que c'est il y a 100 ans, mais c'est pas si loin que ça. Il y avait déjà des slogans antisémites.
Oui.
Et avec vraiment de la vieille rhétorique, très standard, très française. On l'a vu pour l'affaire Dreyfus. Aujourd'hui aussi, on a des rhétoriques de ce type. La France, elle est particulièrement antisémite. Il y a un vieux fond d'antisémitisme qui reste toujours identique, dans lequel, par vague, chacun va épuiser pour y fondre une haine du moment. Qu'en pensez-vous ?
En fait, c'est très paradoxal parce que à la fois, il y a effectivement ce vieil antisémitisme, c'est la part d'antisémitisme, j'allais dire, qui relie l'extrême droite et l'extrême gauche. L'antisémitisme arabo-musulman et le classique antisémitisme européen, on pourrait dire, cette vision du juif comme rattaché à l'argent, cette vision en fait du juif comme étant dominant, comme étant puissant et d'autant plus haïssable que finalement il est plus intelligent, plus fort. Donc la seule manière quelque part de le supplanter, c'est de l'éliminer. C'est-à-dire que dans la violence de la représentation du juif comme faisant partie des forces de l'argent, il y a aussi tout un levier social de haine qui vise à faire en sorte que la population la moins éduquée puisse passer à l'acte assez facilement par jalousie et par sentiment que des gens qui vous dominent à ce point, vous ne pouvez pas en faire vos serviteurs, vous ne pouvez pas les réduire en esclavage, parce qu'il y a deux manières de gérer cette forme de racisme. C'est d'abaisser l'autre à tel point qu'il devient votre serviteur, c'est la logique de dimisation, ou alors c'est l'élimination, et en général vous éliminez ce que vous pensez ne pas pouvoir dominer. Donc là-dedans, il y a quelque chose de très fort et qui effectivement unit toutes les formes d'antisémitisme. Et oui, chez les Gilets jaunes, c'était extrêmement fort parce que quand les Gilets jaunes sont arrivés, l'extrême gauche y a vu un levier révolutionnaire. Or, l'extrême gauche, on tente à l'oublier parce qu'on a fait de la gauche finalement une forme d'idéal de résistance et de quête de la justice. Mais la dimension antisémite de l'extrême gauche a toujours été très forte, et on oublie même au moment de l'affaire Dreyfus que la gauche va mettre un peu de temps à se mobiliser, et qu'au début son réflexe est quand même de dire, de partager finalement cette vision de la race qui dirait que De toute façon, on ne peut attendre d'un juif que la trahison. Et même, Jules Guesde est complètement là-dessus, mais même certaines personnes de gauche mettront du temps à venir, et même quand elles viendront dans la défense dreyfusarde, c'est parfois avec des mots qui nous choqueraient aujourd'hui énormément. Y compris de la part de figures tutélaires de la gauche. Donc quand les gilets jaunes sont arrivés, ce qu'on a vu aussi, c'est que l'extrême gauche, dans son levier révolutionnaire, associe également les juifs à la puissance et à la domination. Donc la figure du juif devient une figure de c'est l'hypercapitaliste. Et du coup, on a aussi ce retour là-dedans, dans l'extrême gauche actuelle, qui fédère également dans la haine du juif au nom du combat contre le grand capital. Cette dimension, en fait, elle n'a jamais été abolie. Et en fait, on la voit ressurgir de plus en plus, je trouve.
L'une des références de la bien-pensance de gauche, c'est Proudhon. Quand on lit Proudhon, on peut franchement se poser des questions sur l'idéologie de gauche.
Mais on peut toujours s'en poser, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, l'élément moteur de la gauche, qui est LFI, dit des choses atroces. Je ne sais pas si vous avez entendu David Guiraud, mais là, on a franchi toutes les bornes de ce qui est acceptable et entendable. Mais il n'y a pas que David Guiraud. Jean-Luc Mélenchon tient des propos qui sont antisémites, en tout cas qui révèlent un arrière-fond antisémite très fort chez lui. Et tout le monde embraye le pas quasiment. Il faut quand même noter des gens comme Raquel Garrido, comme Alexis Corbière, ça les a heurtés, Ruffin aussi, et ils sont manifestés contre. Mais on les a calmés assez vite. Et force est de constater quand même que le PS et ELV, qui passent leur temps à expliquer qu'ils sont des héros de la lutte contre le totalitarisme et qui se font en fait les héros de la lutte contre l'extrême droite, aujourd'hui, il y a un crime contre l'humanité qui s'est passé devant eux. Eh bien, c'est pas suffisant pour dénoncer les alliances avec LFI. C'est pas suffisant pour dénoncer leur lien avec Jean-Luc Mélenchon. Face à un crime contre l'humanité, on se dit il y a un moment où franchement il est humain peut-être de sacrifier ses intérêts au nom justement de l'humanisme. Et bien la gauche qui devait incarner ça, mise au pied du mur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sacrifié les juifs. Elle a choisi de fermer les yeux sur l'antisémitisme, elle a choisi de fermer les yeux sur un crime contre l'humanité, et aujourd'hui, en sous-main, elle accrédite un discours visant à retourner l'accusation et à dire « les juifs sont les nouveaux nazis, regardez comment ils traitent les Palestiniens », en oubliant le fait que moi j'ai jamais vu dans une guerre un belligérant ouvrir des corridors humanitaires pour sauver une partie de la population, prévenir quand il allait bombarder. Bref, alors que personne ne leur en ait aucun gré, Israël et Tsahal se montrent dans la guerre, j'allais dire d'une magnanimité qu'on n'attend pas de gens qui viennent de se faire massacrer de manière horrible autant de personnes sur leur propre sol.
Alors Céline Pina, une dernière question avant de se quitter. Cet après-midi, il va se tenir la manifestation à Paris. Le président Macron, visiblement, ne sera pas présent à cette manifestation. Est-ce que c'est une illustration du « en même temps », à savoir donner un peu d'équilibre à droite, ou est-ce que c'est véritablement un changement dans sa pensée, dans tout ce qu'il a dit depuis quelques semaines?
Bon, de toute façon, le discours de Macron ne peut pas être une boussole. Il dit tout, son contraire. Il n'y a jamais de colonne vertébrale chez cet homme. Donc, une fois de plus, il n'en a pas. Le seul problème, c'est que là, on est face à l'histoire et qu'à un moment donné, on ne peut pas être en permanence un chewing-gum mâché. Il y a un moment où il faut qu'il y ait de la consistance, et là on en a vraiment besoin. Il y a un discours qui est très drôle, je crois qu'il est d'Olivier Ranson. Je dis qu'il est drôle, mais c'est un rire acide. qui dit, où il y a un homme qui dit, mais pourquoi vous n'allez pas à la manifestation ce dimanche ? Et le dessin de Macron répond, parce que je suis aussi le président des antisémites. Oui. Et en fait, c'est très ironique, mais on est au cœur de la problématique. Et on revient sur la question du nombre. C'est-à-dire, aujourd'hui, électoralement, il vaut mieux défendre l'humanisme et les juifs, ou alors il vaut mieux fermer les yeux sur la barbarie et donner des gages à un électorat musulman qui est quand même extrêmement influencé par les islamistes et qui reprend j'allais dire les représentations islamistes. Autrement dit, aujourd'hui, ce qui peut avoir l'air de dominer, en tout cas dans le monde politique, c'est la mise en accusation d'Israël. C'est des mots extrêmement forts comme apartheid, épuration ethnique, etc., qui sont mis sur le dos de l'action des Juifs alors qu'ils viennent de subir un crime contre l'humanité. En fait, Macron participe parfaitement de cette absence de distinction. Et comme il sent... en fait, le pari de Macron, c'est de se dire, les Français... Je vais être dure et je partage pas du tout ça. Hein. Mais je pense que le pari de Macron, c'est de se dire, les Français ne seront pas au rendez-vous de la lutte contre l'antisémitisme. Mmh. Donc, moi, j'ai plutôt intérêt à donner des gages à l'électorat musulman, parce que je pense qu'il est dominé par l'islamisme, qu'il est antisémite et que je ne peux donc pas trop lutter contre l'antisémitisme, et que ce faisant, il trahit tout ce que nous sommes. Moi, ça me rend malade, et je trouve que ne pas être présent à cette manifestation, c'est une trahison, mais pas une trahison des Français de confession juive. C'est une trahison de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous représentons et de notre part d'humanité. Et je suis extrêmement choquée que le président ne soit pas au rendez-vous de l'histoire. J'allais dire, il y a deux manières d'être au rendez-vous de l'histoire, parce que l'histoire, elle retient aussi le nom des lâches et des médiocres. À un moment donné, en 38, vous pouviez être De Gaulle qui hurlait en disant « Attention, voilà ce qui va se passer ». Et vous pouviez être Daladier qui sacrifiait la France par lâcheté. Je pense qu'aujourd'hui, on sait qui on a installé à l'Élysée. Et franchement, c'est pas De Gaulle.
Merci, merci Céline Pina pour votre disponibilité, merci. Pour la qualité de votre expertise. Merci à vous.
Merci.
À très bientôt.
Et bonne émission. Au revoir.
Merci. Au revoir.